Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Au mois d'octobre, le metteur en scène Bruno Gélin était à Nîmes, au théâtre, pour présenter sa pièce « Sur le chemin des glaces » à partir du livre de Werner Herzog. Il a présenté également, au Sémaphore, « Les ascensions de Werner Herzog », deux documentaires, un à la Soufrière en 1976 et un qui s'intitule « Garschenbrunn » en 1985, « Conquérir deux sommets de l'Himalaya ». Werner Herzog, génie du cinéma allemand, entreprend à l'hiver 1974 un voyage à pied de Munich à Paris, 842 km pour conjurer la mort de son ami et mentor, Lott Exner, gravement malade. 50 ans plus tard, Bruno Gélin se lance sur ses traces, un chemin qui ouvre et réinvente nos paysages intérieurs avec ses deux acolytes de plateau, Clément Bertani et Guillaume Laugereau. Le plus simple est d'écouter Bruno Gélin parler en conférence sur les traces de Werner Herzog au théâtre.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce brunch photographique. Voilà, donc, qui n'a rien à voir avec une soirée diapo, hein, on est d'accord. C'est l'après-midi déjà. J'en ai un peu parlé hier soir, je pense que vous, si vous êtes là, vous avez sans doute tous vu le spectacle. Donc j'ai parlé un peu hier soir du fait que pour nous, reprendre, s'inscrire dans ce Munich Paris à pied sur dans les pas de Werner Herzog, c'était une évidence, voire une nécessité. On n'avait pas du tout envie d'avoir un regard universitaire, trop analytique sur le texte, puisque le texte parle d'une transformation physique. C'est un chemin initiatique, donc on assiste aussi quelque part à la disparition et à la renaissance d'un homme. Et si vous voulez, une fois que vous avez compris, c'est, on va dire, le cœur de ce spectacle, il y a quand même la nécessité absolue de l'éprouver dans votre chair, de voir comment la transformation opère également en vous. Au-delà de la force poétique du texte d'Herzog, mais comment, dans cette traversée, paysage enneigé, dans cet endroit de résistance au froid, à la fatigue, dans cette manière de, en avançant, faire un pas de côté par rapport à ce monde un peu fou, c'est-à-dire qu'on a eu la chance pendant un mois de ne plus du tout être appelé au téléphone. Je vous assure que rien que ça, déjà, c'est une expérience très jouissive, et de voir comment s'opérer cette transformation en nous. Après, puisqu'on avait beaucoup préparé le voyage, je pensais que la chose allait être visible, beaucoup plus visible, cette chose qui est en train de vous métamorphoser intérieurement. Et j'étais presque déçu. Je m'attendais à vivre un peu une sorte de psychanalyse sauvage, où je pensais que j'allais retraverser comme ça toutes les périodes de ma vie, mettre un petit peu d'ordre, trouver du sens. Et j'étais presque déçu, puisque, en tout cas pour ma part, toute mon énergie était vraiment concentrée sur les choses les plus basiques, c'est-à-dire juste de mettre un pied devant l'autre pour pour pouvoir arriver le soir à une étape qui était, au début, on a commencé à marcher, c'était 22 km, puis après on a augmenté progressivement, 25, et puis après on faisait plutôt des étapes à 30 km. Et pour ceux qui ont déjà marché, vous savez que les derniers kilomètres sont dramatiques. Les deux derniers kilomètres sont dramatiques, puisque quelque part votre tête est déjà arrivée. Et par contre, le corps, pas encore. Pas encore, pas encore le corps. Donc ce moment-là, en fin de journée, la nuit qui tombe, le froid qui vous gagne, l'envie de boire une bière aussi, tout ça fait que y a dans ce moment-là d'extrême fatigue et de fragilité, des choses qui commencent à vous traverser. Donc, je pensais vraiment que les choses allaient être plus actives immédiatement. Et j'avoue que j'étais presque déçu. C'est-à-dire que, effectivement, il y avait un regard au monde qui était en train de changer. Des choses que 3 semaines avant, je n'aurais même pas remarqué. D'un seul coup devenait une évidence. On a rencontré beaucoup d'animaux morts sur la route. Il y a comme ça un rapport très présent avec la mort. Même pas l'idée de la mort. La mort, c'est-à-dire, voilà, je vous montrerai des photos avec un oiseau pris dans le gel, des mâchoires de vaches. Et je sais pas, il y a comme un rappel, puisque nous on vit quand même dans des sociétés où on essaye d'éloigner au maximum cette idée-là, cette idée de mort. Là, on y est confronté de manière très concrète et quotidienne. Et puis on est aussi confronté à quelque chose qui vous... Comment vous dire, qui vous rend un peu saillant. C'est-à-dire que, alors, il y a plein de moments où vous traversez des grandes étendues, des paysages magnifiques. Ça, c'est les meilleurs moments. Mais il y a plein de moments aussi où vous marchez le long d'une route nationale. Et quand la route nationale est pleine de neige, gelée ou qu'il pleut, averse, et que des camions, en fait, arrivent vers vous sans diminuer la vitesse, vous sentez quand même que vous jouez un peu avec le risque. Voilà, donc le risque est quand même a été présent, pas toujours, mais ça vous réveille aussi, quoi. C'est clair qu'on a quand même tous l'impression qu'on est éternel, et là, le fait d'être confronté à ce risque-là, ça réveille quelque chose en vous, et ce que ça réveille, presque paradoxalement, c'est votre appétit de vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est au moment où on était arrivé à Paris, qu'on a arrêté de marcher, et là, comme une marée... mais Atlantique, pas Méditerranée, mais il y a quelque chose qui a commencé à nous envahir, et on s'est rendu compte, même si on n'avait pas conscience de ça, qu'il y avait un travail qui était opérant tout le long de ce voyage-là, et perturbant, puisque au retour, en tout cas pour ma part encore, je ne peux pas parler pour Clément, mais il a fallu reconstruire comme ça des priorités, des hiérarchies par rapport à ma vie. Sur l'endroit technique, puisque une fois qu'on avait décidé de refaire ce chemin, cette marche, on voulait la documenter. Donc on voulait à la fois créer un journal photo, où le soir, on choisissait les photos de la journée, on les envoyait, parce qu'on voulait absolument pas avoir affaire aux réseaux sociaux, etc. Donc on les envoyait à un graphiste qui lui organisait les choses dans un journal avec des bouts de phrases, des pensées. Et puis on avait déjà l'intuition, en tout cas pour le spectacle, qu'on avait besoin à un moment donné d'images vidéo. Puisque c'était à la fois pour être vraiment certain d'avoir effectué ce voyage, et puis aussi comme une matière possible d'écriture scénique. Certains d'avoir effectué ce voyage, je vous le dis, parce qu'à chaque fois, en tout cas en Allemagne, qu'on rencontrait des gens, alors il se trouve en plus qu'on parle très très bien allemand et l'un et l'autre, donc au bout d'un moment qu'on réussissait à se faire comprendre, les gens nous prenaient vraiment, vraiment pour des fous. Mais vraiment, il y avait quelque chose qui se passait dans leur regard où ils comprenaient. Une fois qu'ils avaient compris, il y a quelque chose qui leur semblait absolument pas rationnel. Et franchement, au bout de quelques jours, on a un peu arrêté de dire ce qu'on était en train de faire parce que ça nous mettait quand même un doute. Quand, vu la tête des gens, quand on leur annonçait qu'on allait marcher en plein hiver jusqu'à Paris, et qui faisait des gestes parfois comme ça, c'était un peu paniqué pour nous. Donc on a commencé à arrêter d'en parler. Mais c'est vrai que le fait de documenter le voyage, ça nous permettait de nous inscrire aussi dans une réalité, parce que le texte d'Herzog est fou. Et puis lui, il y a une grande différence, puisqu'il part sur un coup de tête, donc sans préparation, ce qui n'a pas été notre cas, même s'il y avait une part d'inattendu. On n'a pas voulu précisément, on n'a pas voulu faire de repérage, on ne savait pas le soir où on allait dormir, on le décidait le matin, on se donnait des objectifs, mais au quotidien. Lui, par moments, dormait dans des abribus, dans des granges, dans des maisons de secondaires qui l'ouvraient avec sa méthode. Alors il y a deux méthodes. Hein. Il avait aussi des petits instruments chirurgicaux qui lui permettaient d'ouvrir les portes des maisons secondaires. Et puis il y a l'autre méthode que Yoshi lui a appris, c'est-à-dire casser un carreau, ouvrir et puis rentrer. C'est une méthode un peu plus expéditive, plus rapide. Donc nous, on y a pensé à un moment donné, franchement. J'ai même regardé comment on pouvait ouvrir les serrures dans des tutos sur Internet. Et puis Dounia, qui travaille avec moi, qui est présente ici, m'a fortement déconseillé. Elle avait sa peur de nous retrouver en prison, et c'est vrai que ça aurait pu être un peu dommageable pour le projet. Donc on avait installé un camion, voilà, alors pas du tout un camping-car, hein, puisque c'était un camion où on installait des lits de l'armée superposés. Et Guilhem Logereau, que vous avez pu entendre, qui a créé tous les paysages sonores, qui chante également, qui est musicien, qui est également acteur, lui avait la charge, la lourde charge de nous retrouver tous les 30 kilomètres. Et puis de trouver un endroit plutôt sympathique, mais je vous avoue qu'on a plutôt dormi sur les parkings en général. On se faisait une fête de dormir en pleine nature, mais en général on allait plutôt à l'efficacité, à l'essentiel. Donc l'endroit était souvent assez peu sexy, quoi. Et puis surtout, comme on avait toutes les images à des rochers, les images vidéo, les photos, ça nous prenait beaucoup de temps. On était absolument épuisés. Donc en vrai, on n'était pas tellement là pour profiter du paysage, de l'endroit où on s'arrêtait. On allait plutôt se coucher. En plus, il faisait froid. Il y avait un tout petit chauffage à gaz qu'on ne pouvait pas laisser tourner parce qu'évidemment, le voyage aurait pu aussi s'arrêter très rapidement. Ou en tout cas, on aurait pu commencer un autre voyage. Donc, quand même décidé de choisir d'avoir froid, plutôt que de mourir. Et Et il y avait aussi mon chien, Max, qui était avec nous, qui était déjà très vieux et qui ne pouvait pas faire la marche en entière avec nous, les étapes étaient trop grandes, mais qui a donc accompagné Guilhem dans son voyage, dans ce trafic. Et il y a presque eu deux voyages parallèles, comme ça. Et c'était intéressant parce que, à la fois, Guilhem découvrait les étendues traversées qu'on lui montrait, qu'on choisissait les photos. Lui était beaucoup sur le texte d'Herzog et puis d'autres textes, et il nous envoyait des textos de temps en temps. Mais il y avait comme ça cette chose entre un voyage réalisé quelque part et puis un voyage fantasmé. Donc c'était vraiment intéressant parce que c'était presque le début de la fiction. Dans un premier temps, je ne sais pas à quel moment je vais vous montrer les photos que je vous avoue, parce que je ne les ai jamais fait. Donc je ne sais pas, je vous ai promis que ce serait pas une... Bon. En tout cas, pour l'instant, elles sont dans l'ordre. Non, je vais quand même continuer un tout petit peu sur l'aspect technique de l'aventure. Donc, on avait prévu, il y avait quand même cette idée pour pouvoir avoir un peu de hauteur avec cette marche d'utiliser un drone. Donc j'ai appris très rapidement à utiliser un drone de manière assez basique, mais c'est ce qui m'intéressait aussi. On avait également une petite GoPro, puisque l'idée c'était de pouvoir travailler vraiment en plan séquence et d'accompagner la marche sans qu'on ait évidemment trop de matériel. Ce qui était intéressant, c'était que à la fois le drone et la GoPro, c'est des outils de surveillance. C'est plutôt utilisé par les forces de l'ordre. Donc l'idée c'était de réussir à trouver un langage politique avec ces outils qui sont plutôt des outils, comment vous dire, de répression. Voilà.
Jeudi 28 novembre 1974. Matin noir qui s'assombrit. Il n'y a qu'au lendemain d'un grand malheur, d'une grande épidémie, que se lève une aube aussi sombre et froide sur les champs. Elle ne mourra pas. Ne mourra pas. Pas maintenant. Elle n'en a pas le droit. Un ami parisien m'a téléphoné à la fin novembre 1974. Il m'a dit que Lotte Eisner était très malade et allait sans doute mourir.
Et il nous a fallu un petit temps pour comprendre comment on allait pouvoir trouver un langage avec ça. D'autant que la GoPro, c'est très frustrant puisque vous avez très peu de vision, que vous ne pouvez pas changer d'objectif. Voilà, donc moi j'étais un peu perdu puisque parallèlement au théâtre, j'ai une formation de photographe également, et c'est vrai que ça me questionnait beaucoup sur ma pratique. Et il a fallu vraiment un temps pour qu'on comprenne comment utiliser ces outils. Et puis on était aussi, et ça partait d'une réflexion, on était équipé de deux petits appareils photo. Alors pas automatiques, voilà, moi j'avais des objectifs, toi aussi, on est entre le réflexe et puis... avec cette idée qu'on voulait en partie travailler sur du noir et blanc. Et puis aussi, on avait un 5D pour ceux qui ont un peu fait de photographie. C'est un appareil beaucoup plus lourd, avec aussi toute une batterie d'objectifs qui fait des vidéos très intéressantes. et puis on avait amené un pied, et puis on avait amené un stabilisateur, et puis voilà. On est parti le premier jour avec des sacs à dos très très lourds. Hein. Et on l'a compris voilà, à la fin de la journée. C'est-à-dire qu'on était, c'était pas les jambes, c'était le dos. Quoi. On était absolument ruinés. Et on était au premier jour. Donc, comme il restait 29 jours, on a commencé à se poser les questions essentielles. Et c'est vrai qu'au-delà du poids, le fait de s'arrêter, de poser son sac, d'ouvrir son sac, de sortir le pied, de régler le pied, de sortir l'appareil photo. Bon, si vous voulez, vous perdez la dynamique de la marche. Et au bout d'un moment, en fait, vous ne faites plus l'effort de poser votre sac, parce que ce qui compte, c'est que voilà, vous ayez suffisamment d'énergie pour arriver jusqu'au point de rendez-vous. Donc, heureusement, on s'est rendu compte de ça assez tôt. Je pense que le deuxième jour, on a refait un essai, on avait enlevé un peu des choses, mais on avait gardé le 5D sans le pied, etc. Et ça ne suffisait pas encore. Donc au fur et à mesure, on s'est délesté de matériel, on a juste gardé le drone et nos deux appareils photo et la GoPro. Et puis tout était accessible, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'enlever le sac pour faire une photographie. Et puis, à la fois en vidéo, en image et en photo, il y avait la question de... On a fait quelques photos posées, mais ça racontait pas grand-chose. Donc on sentait qu'il y avait la nécessité aussi d'intégrer le mouvement dans la photographie. Et puis, à la fois en vidéo et en photo, il y a quelque chose qui était assez étonnante, c'est que je photographiais et je filmais Clément quasiment tout le temps de dos. Voilà. Et puis au bout d'un moment donné, la nécessité devient un langage. Que c'est exactement ça qu'il fallait raconter, à la fois en vidéo et en photographie. Bon, il y a quelques portraits, vous allez voir quelques portraits, mais sinon c'est vraiment Clément qui, d'abord, on peut davantage s'identifier quand on est plus dans une silhouette qui s'inscrit dans un paysage, que si à chaque fois on voit la tête de Clément, même si Jean-Claude le trouve très beau, c'est une autre histoire. Voilà. Et puis il y a, si vous voulez, c'était très empirique, parce qu'on comprenait au fur et à mesure qu'on était en train de le faire ce qu'on voulait faire. Donc c'est vrai que, et on le voit en fait dans le dérochage, dans les photographies, au début on tâtonne, on n'arrive pas trop à comprendre comment faire pour raconter ce qu'on a envie de raconter. D'autant que il y avait quand même cette idée qu'on faisait ni un reportage événement sportif, une marche, ça ne nous intéressait pas, et qu'on ne faisait pas non plus un album de photos souvenirs, et qu'on avait plutôt envie d'accéder à cet endroit dans le texte où on comprend que les paysages traversés ne sont plus des paysages réel, mais des paysages intérieurs, ou en tout cas qui dialoguent avec le paysage intérieur de Werner Herzog. Donc il y avait quand même cette idée-là de réussir à produire des images mentales. Et donc il y a eu à la fois un travail de réflexion technique, plus la marche, ça faisait beaucoup de choses. Et puis aussi, voir comment les photos et les vidéos évoluer au fil de cette marche. Et je me suis rendu compte que vers la fin, je prenais en photographie Clément de plus en plus loin. Et à la toute fin, on voyait plus qu'une toute petite silhouette, un tout petit point. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment aussi ce qu'on cherchait, ce que raconte Herzog, c'est la disparition, la dissolution de son être à l'intérieur d'un paysage. Et pour vous dire à quel point c'était empirique, puisque j'ai compris ce que j'étais en train de faire, mais même pas sur le moment, mais vraiment, je pense, bien plus tard, quand j'ai commencé à regarder la série des photos. Et puis, il y avait autre chose aussi, j'en ai un peu parlé hier, c'était une forme entre nous aussi de dialogue, puisque il y avait des points de vue, des cadres, des regards tout au long du chemin qui étaient différents. Il faut dire que Clément avait quelques obsessions qui nous retardaient en général beaucoup, puisqu'il était fasciné à la fois par les éoliennes. Il a passé un mois à essayer de faire une photographie de corbeau. On y passait beaucoup, beaucoup de temps, c'était où on devait s'arrêter le plus. Donc il avait quelques petits tocs comme ça, mais il y avait surtout deux points de vue, deux regards qui se croisaient et qui au final, en tout cas sur l'instant, créaient un dialogue, parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, maintenant ça fait combien, ça fait deux ans, aujourd'hui quand je regarde des photos, je commence à avoir du mal à savoir si cette photo a été faite par Clément ou par moi. C'est-à-dire que maintenant, tout ça commence à se mélanger dans une seule et même vision, expérience. Avec les gens.